Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servagent.
Le programme de la Marche de l'Histoire aujourd'hui.
Eh bien, toujours très célébré ou très commémoré, la fin de Constantinople et de l'Empire d'Orient. C'était à la fin de mai 1453.
Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
La Marche de l'Histoire. Jean Lebrun.
La chute de Constantinople, 1453.
Notre journal de l'année 1453 commence par une nouvelle dont l'annonce a bouleversé toutes les capitales du monde occidental. Constantinople, capitale religieuse du monde byzantin, vient de tomber aux mains des Turcs.
Même si l'Europe occidentale feignit l'étonnement, le sort en était jeté depuis longtemps. Il était évident que Constantinople flottait dans ses remparts trop grands et l'empereur ne régnait plus que sur un domaine disloqué depuis 1371. Il payait même tribut au sultan. D'un côté, on peut donc dire que la date de 1453 n'a d'importance que relative. Mais, d'un autre, maintenir qu'elle eut son importance. La fin du vieil empire à dimension écuménique coupe vraiment les ponts entre l'orthodoxie et Rome qui aurait pu être reconstruit. Quant à l'espace politique grec, auquel l'empire avait fini par se réduire, il s'enfonce dans l'obscurité. Les Grecs de 2013 ressentent encore cette humiliation qu'ils attribuent volontiers à l'égoïsme occidental. Les Turcs, en revanche, se souviennent qu'ils y ont gagné une capitale prestigieuse dans une position géographique magnifique. Quel est le titre du film le plus coûteux du cinéma turc ? 6 ou 7 millions de spectateurs en 2012, parmi lesquels le Premier ministre Erdogan ravi. La conquête, 1453. Jean-Claude Chenet, bonjour.
Bonjour.
Grand byzantiniste devant l'éternel. Byzantiniste, ça vous a une allure labyrinthique ?
Depuis le XVIIIe siècle, Byzance a toujours eu une réputation de très complexe, de, disons, obscure, des complots, des discussions sur des points sans importance, ce qui est une réputation tout à fait imméritée.
Et d'ailleurs, vous allez nous prouver qu'on peut parler de Byzance de manière limpide. Vous avez d'ailleurs fait un que sais-je sur le sujet qui a retrouvé par ses multiples traductions l'espace byzantin tel qu'il était, non ?
En bonne partie.
Alors cet espace byzantin, vous avez été traduit en serbe ?
En serbe, en grec, en turc, en arabe.
Cet espace byzantin, quand on va le prendre au 1er 15e siècle, est fortement réduit. Évocation, c'était à la radio française en 1953, pour un autre anniversaire de la chute de Constantinople, par l'inénarrable causeur qui était Emmanuel Beau de Loménie.
1453, prise de Constantinople par les Turcs. C'est une date que connaissent tous les bacheliers. Ce qu'on enseigne à nos collégiens du passé de Constantinople se réduit à peu près à cet unique événement. Absorbés par le souci de leur faire connaître le passé de leur propre pays, nos professeurs n'ont guère le loisir de les faire réfléchir à ce qui, dans les siècles lointains, se passait dans ces régions excentriques où s'élève Constantinople, sur les bords du détroit du Bosphore, aux confins de l'Europe et de l'Asie. Et pourtant, l'histoire de Constantinople est riche d'enseignements d'une portée particulièrement haute à une époque comme la nôtre, où la question des rapports entre l'Orient et l'Occident, entre ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation occidentale et la civilisation orientale, soulève tant de discussions. En effet, avant de s'écrouler en 1453, Constantinople, on l'oublie trop, avait été pendant plus de 1000 ans la capitale riche et somptueuse d'un grand empire, celui que l'histoire appelle l'Empire byzantin, qui, pendant des siècles, fut le principal foyer où fut conservé l'héritage des grandeurs civilisatrices de la Rome antique.
Alors déjà, on se plaignait que l'histoire byzantine ne soit pas assez enseignée.
Dans le secondaire, c'est assuré. Dans le supérieur, on a encore des auditoires assez nourris.
Mais vous me dites quand même que d'habitude, vous parlez sans micro.
Oui. Mais j'ai quand même en L1 autour de 150 à 200 personnes.
Alors revenons aux années 1400. Ce n'est pas parce que les derniers empereurs paléologues, Manuel II, Jean VIII, Constantin, qui sera l'ultime, est manqué de mérite, de courage. C'est pas qu'il n'ait pas suivi un cap clair, mais leur pouvoir s'étend sur un territoire maintenant extrêmement réduit. On pourrait dire un reliquat plutôt qu'un empire.
Oui, absolument. Depuis le milieu du XIVe siècle, lorsqu'il y a eu la guerre civile entre empereurs byzantins qui ont fait des deux côtés appel aux Turcs, les Turcs ont pu pénétrer très largement en Europe et ont conquis l'essentiel de l'Europe balkanique aux dépens des Byzantins, mais aussi des Bulgares, des Serbes. Et à ce moment-là, l'Empire byzantin n'est guère plus que la banlieue de Constantinople et une province qui est dynamique mais lointaine, qui est la Morée dans le Péloponnèse, face aux Francs. Et il y a un reliquat aussi en Orient qu'on appelle l'Empire de Trébizonde, mot bien excessif pour un empire dont la capitale avait 5 à 7 000 habitants.
Mais le titre, Basileos, Autocrator, c'est excessif ou ça renvoie à une tradition écuménique, méridionale, méditerranéenne, qui a encore de la force?
C'est encore à ce moment-là un titre symbolique important vis-à-vis des autres princes chrétiens des Balkans. Symbolique parce que sur le plan politique, vous l'avez rappelé, l'empereur doit payer tribut au sultan, et ce depuis la fin du XIVe siècle. Et si je puis dire, à la fin du XIVe siècle, il y a déjà eu un premier siège de Constantinople au temps d'un prédécesseur de Mehmed II, qui est Bayezid Ier, la foudre Yıldırım, qui a été arrêté par les turco-mongols de Tamerlan, divine surprise qui a permis à l'Empire, en fait, de survivre 50 ans de plus. Mais les sorts en étaient visiblement jetés dès la fin du XIVe siècle.
Alors, les diplomates, les espions sont très nombreux, attirés peut-être par le pourrissement de l'Empire. L'ambassadeur du duc de Bourgogne écrit « Il y a beaucoup plus de vide que de plein ». Constantinople a-t-il gardé un rôle économique très important ?
Constantinople a gardé un rôle économique tout simplement parce qu'elle tient, mais avec sa rivale, si je puis dire, en face de la Corne d'Or, Péra, le Bosphore, qui est une ligne vitale de communication, notamment des cités marchandes italiennes, avec l'espace de la mer Noire. Mais cela ne suffit pas à, évidemment, remplir la ville de Constantinople, qui n'a jamais été, d'ailleurs, complètement bâtie à l'intérieur de l'ensemble des murailles. Mais évidemment, par rapport à l'époque de Justinien, la superficie est divisée peut-être par 10. Mais ce qui donne l'impression de ruine, c'est que les constructions romaines sont solides. Même vides, elles sont encore visibles.
Alors, il y a encore 50, 60, 70 000 habitants, ce qui, pour
l'échelle
médiévale, n'est pas rien.
Voilà, nous n'avons pas de recensement, mais d'après le nombre de défenseurs, on peut considérer qu'on est au-dessus de 50 000 habitants.
Constantinople est devenu un enjeu de convoitise, un objet, notamment pour les puissances occidentales, pas seulement pour les Turcs. Il faudrait d'ailleurs parler du rôle des Italiens, qui, pragmatiques, regardaient se déliter l'Empire.
Ils ont eu deux phases. Ils ont participé à la destruction de l'Empire au XIVe siècle, en se battant éventuellement entre eux et en entraînant l'Empire dans des alliances malheureuses. Mais à partir du XVe siècle, ils ont conscience que le danger, c'est le danger turc. Mais ils peuvent avoir deux attitudes, combattre ou négocier. Et évidemment, ils ont tendance à chercher des accommodements avec les Turcs.
Alors, quand je dis italien, il faut faire la distinction entre les Génois, qui ont un rôle peut-être
moins
important,
Vénitiens.
Les Vénitiens, qui sont les interlocuteurs principaux, et puis, en Italie, le pape, qui, lui, garde mieux chevillé au corps l'horizon de croisade, l'idée d'unité des chrétientés. Alors, ce film turc à succès, Conquête 1453, Fethi 1453, vous le diriez beaucoup mieux que moi en turc.
Se fait-il victorieux ?
Pour savoir. Faruk Aksoy, le réalisateur. Voilà comment il présente, au crépuscule de Constantinople, les conversations du pape à Rome à ce sujet.
Nous ne devons pas perdre de vue toutes les possibilités qui existent. Nous ne pouvons pas abandonner Constantinople aux mains des infidèles.
Notre seigneur le pape doit tenter quelque chose. Si nous arrivions à constituer une puissante armée de croisés,
les Français et les Anglais sont en guerre depuis des années. Leurs troupes sont dévastées. L'empereur allemand, quant à lui, est occupé par des conflits de succession.
Mais le pape pourrait solliciter les Vénitiens et les Génois et leur demander leur appui.
En réponse aux initiatives des papes, les derniers paléologues développent une politique unioniste, avec des éclipses. C'est quand même le cap qu'ils suivent au point de faire, dans le cas de Jean VIII, paléologue, deux longs voyages en Italie.
Oui. L'union des églises est évidemment une question qui est ouverte depuis ce qu'on a appelé, un peu à tort, le schisme de 1054, mais elle a pris un tour crucial sous les paléologues, dans la mesure où l'union des églises a été un moyen de marchander pour le pape et les puissances chrétiennes leur secours à Constantinople. Mais là encore, au XVe siècle, il y a un certain changement et le concile de Ferrare-Florence aboutit à une union des églises après des discussions approfondies qui ont été largement approuvées par une grande partie du clergé.
Alors, vous parlez de ce concile un peu oublié qui s'est tenu en deux endroits. L'empereur s'est installé pendant deux ans en Italie, arrivant évidemment par Venise. Et on espérait du côté pontifical que les puissances occidentales viendraient à ce concile, juste l'ambassadeur du duc de Bourgogne s'y est rendu et on a signé un texte. Alors sur quoi? Sur les questions théologiques discutées, la place de l'esprit dans la Trinité,
la
primauté du pape, etc.
La primauté du pape qui était un point clé.
Alors, unionisme que le pape a du mal à imposer à ses interlocuteurs occidentaux, mais de son côté, quand l'empereur rentre, il se heurte à une forte hostilité à Constantinople, du haut en bas de l'échelle sociale.
Écoutez, si nous rappelons les Latins, ils voudront s'installer, nous ne pourrons plus les chasser. Avez-vous oublié ce qu'ils nous ont fait endurer dans le passé? Ils ont causé plus de tort à notre religion que personne d'autre.
Mehmet va lancer son offensive, c'est une question de jour. Nous n'avons pas de temps à perdre, grand-duc Notaras.
Je vous en conjure, monseigneur. Vous mettriez notre église à la botte du pape avec une telle décision. Ce serait tirer un trait sur notre religion. Je préfère encore voir des turbans turcs dans la cité, plutôt que des mitres de cardinaux.
Nous ne voulons pas de catholiques infidèles dans la basilique Sainte-Sophie. Il n'est pas question que nous fassions don de notre religion au pape.
Nous ne prierons pas dans les mêmes églises que les latins.
Nous ne voulons pas adopter leur culte.
Ils essaient par tous les moyens de nous dérober notre foi. Le moment est venu de dire non à ces ordures de catholiques. Qu'ils cessent de se nourrir de notre sang, nous qui suivons le chemin de Jésus et qui sommes les vrais chrétiens.
Toujours le grand film turc de 2012 intitulé « La conquête 1453 » avec le personnage... Allez, j'aime bien les titres, moi, de Byzance et Constantinople, avec le méga-duc.
Le grand-duc, méga-duc,
Luc Notaras. Qui a donc dit plutôt le turban turc que la mitre des cardinaux?
Alors, je pense que c'est une parole apocryphe. Mais le personnage de Notaras est très intéressant, puisqu'il fait partie incontestablement des anti-unionistes, mais c'est un descendant d'homme d'affaires lui-même, et plutôt un administrateur. Mais toute sa fortune est à Gênes et à Venise, et il est citoyen des deux villes. Donc, on peut être anti-unioniste et protéger ses arrières.
Pendant ce temps, les Turcs continuent d'avancer leurs pions. Alors, les paléologues déploient 1000 ruses, mais les sultans restent persuadés que ce sont eux qui fomentent tous les troubles qui peuvent exister dans l'Empire ottoman. Et quand le jeune Mehmet II accède au trône, il a 19-20 ans, malgré les avis des vieux de la vieille de sa cour, il décide d'entamer le siège décisif. Nous sommes en avril 1453.
La porte de Crescia, général Contarini, vous déplorez vos troupes là-bas.
À vos ordres.
Chevalier Giustinien.
À vos ordres, Majesté.
Avec ton propre bataillon et les archers du pape, tu défendras la porte Romanos, qui est notre point le plus faible. Que Dieu nous en préserve, si les Turcs réussissent à pénétrer dans la ville, vous serez les premiers à les combattre.
Ne vous en faites pas. Je ne laisserai pas le moindre Turc passer entre les mailles du filet.
Que le Seigneur protège notre cité.
La zone entre Dirnekapi et Vansare pour toi.
À vos ordres, mon sultan.
Chez Abetin Pacha, tu positionnes tes cavaliers entre Grikapi et le palais impérial.
À vos ordres, mon sultan.
Suleiman Pacha, il faut absolument que notre flotte entre dans la Corne d'Or. C'est là que les murailles sont les plus faibles.
Entendu, mon sultan.
Zaganos, toi, tu tiendras les collines de Galata.
À vos ordres, mon sultan.
Vous pouvez disposer.
Omnes sanctius sperunt eam. Non est qui conservetur.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Constantinople, 1453. Bon, il n'y a pas de suspense. On sait que la ville va tomber. On vient d'ailleurs d'entendre les lamentations sur la perte de l'église de Constantinople qui ont été composées aussitôt après mai 53 par Guillaume Dufay et que vous avez entendu interpréter, exercice d'union écuménique par des instrumentistes français, un chanteur turc et l'ensemble Kutsi Erguner. C'est Jean-Claude Chenet qui est l'invité de la marche de l'histoire. Vous pouvez quand même nous dire que les choses étaient indécises, que si les vieux de la vieille de la cour de Mehmet II l'avaient prévenu qu'il y avait danger, c'est que le rapport de force n'était pas aussi déséquilibré que les simples chiffres le montraient.
C'est-à-dire, la position du jeune sultan n'était pas encore très affermie, notamment par rapport à l'entourage de son père Mourad. Et pour le sultan, la prise de Constantinople représentait un atout, mais aussi un pari, parce qu'il faut monter une énorme expédition qui ne peut pas rester devant les murailles très longtemps pour des questions de ravitaillement. Donc, le siège était concevable, mais ne devait pas s'éterniser.
Vous pouvez nous faire un panorama de Constantinople? On voit encore, quand on visite Istanbul, les traces des murailles terrestres dans de nombreux endroits.
Absolument, c'est la défense déjà mise en place par l'empereur Théodose II en 451 pour faire reculer la menace des Huns et déjà des cavaliers des steppes. Et donc, vous avez les murailles terrestres qui vont encore jouer leur rôle, malgré la présence pour la première fois d'artillerie lourde, si je puis me permettre. Anachronisme. Vous avez les murailles maritimes le long de ce qu'on appelle la mer de Marmara, la propontide des Grecs, et vous avez aussi des murailles pour protéger l'intérieur, c'est-à-dire la Corne d'Or. Mais normalement, la Corne d'Or est fermée par une chaîne, et donc l'essentiel des défenseurs devait être placé sur les murailles maritimes et la muraille terrestre.
On a entendu tout à l'heure, avant la musique de Guillaume Dufay, l'empereur Constantin faire le compte de ses troupes disposées les uns et les autres devant chaque porte. On a entendu le nom d'un Génois, on a entendu référence à la position auprès de l'empereur d'étrangers qui étaient venus combattre à ses côtés.
Alors, effectivement, Constantinople, dans ses derniers instants, va être défendue par sa population, totalement mobilisée, 5000 hommes à peu près, et à ses côtés, 2000 latins à peu près, dont tout un groupe de 700 hommes commandés par un Génois qui portait le nom de Justinien, Justiniano Longo, et qui viennent secourir, si je puis dire, à titre personnel. Ce n'est pas l'engagement de la ville de Gênes. En revanche, la ville de Venise était prête à soutenir, pour des raisons antérieures, ses capitaines avaient été quelque peu maltraités par les Turcs. Mais ce siège est quand même venu, paradoxalement, comme une sorte de surprise, parce qu'on a sous-estimé totalement le nouveau souverain.
Et le nouveau souverain turc s'impatiente, parce qu'il est là depuis 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Il craint que les Vénitiens ne finissent par envoyer une
expédition.
Ils ont envoyé,
mais elle est en retard.
Alors, on a entendu le point de vue turc avec le film Fétis 1453. On va entendre le point de vue chrétien tel qu'il était retranscrit dans une émission de télévision française en 1981 qui s'intitulait « Journal du passé ». Imaginez un journal télévisé avec des témoins des événements. Et une interview était présentée d'un cardinal Isidore de Kiev qui représentait le pape et qui était là à Constantinople pendant le siège. Mais alors comment est-il revenu au jour? Comment a-t-il échappé à la mort?
Eh bien, il a échappé à la mort par un échange assez subtil de sa tenue de cardinal qu'il donnait pour une belle cible. Et il s'est revêtu de haillons et il a été fait prisonnier parce que c'était inéluctable. Et il a été racheté pour pas très cher, il est revenu en Occident.
Ben le voici, la voix un peu éraillée, mais encore le ton cardinalis dans le journal télévisé du passé de Jean Lefebvre et Thierry Bourgeon en 1981.
Combien y avait-il d'hommes pour défendre Constantinople face à ces 300 000 Turcs?
Environ 9 000. Mais
qui se sont battus comme des lions. Ah, pendant deux semaines, oui. Et rebouchant dans les remparts les trous que faisaient les boulets de canon près de la porte Saint-Romain.
Pourquoi, les Turcs avaient un canon ?
Un gigantesque canon de bronze, mon fils.
Mais comment ont-ils fait pour prendre la ville ?
En pleine nuit, aidé par des milliers d'hommes, le sultan a fait transporter par voie terrestre tous ses navires, tirés sur un chemin fait de rouleaux de bois graissés. Le lendemain matin, toute la flotte turque était devant le palais impérial.
Ben oui, les Turcs avaient des canons, c'est ce que vous nommiez, monsieur le professeur, l'artillerie lourde. On disait les lombards aussi.
Oui, non, mais artillerie lourde, parce que c'est un canon fantastique qui avait été transporté par plusieurs centaines de paires de bœufs depuis Andrinople. Il est fondu par un ingénieur dont on connaît pas trop la nationalité. On suppose qu'il est hongrois, qui avait offert ses services à Constantin XI, mais qui n'avait pas eu les moyens de le rémunérer. Et en revanche, le sultan l'avait grassement payé. Alors, la disproportion des forces, effectivement, qui a été soulignée, était réelle, tout à fait accentuée. Il y a peut-être 80 000 Turcs, ce qui est un rapport de au moins 1 à 10. Et parmi ces Turcs, je signale qu'il y a la nouvelle armée, yénichérique, c'est-à-dire les janissaires, qui sont les troupes d'élite et qui sont des chrétiens enlevés à leurs parents, formés dans des casernes sur le plan religieux et sur le plan militaire. C'est le fameux Defshirme qui laissera un très mauvais souvenir dans les pays des Balkans par rapport aux Turcs.
Mon fils, dit le cardinal Isidore, les Turcs sont rusés. Alors pour contourner la chaîne qui barrait la Corne d'Or, ils ont démonté leur bateau.
C'est un exploit technique. L'idée a été donc de contourner cette chaîne et d'allonger, si je puis dire, comme il y avait peu de défenseurs, le front à défendre, sachant qu'en plus, les murailles de la Corne d'Or n'avaient pas la puissance de celle du côté terrestre.
Mais il y a eu un essai de négociation. Le sultan a envoyé un émissaire à l'empereur.
Oui, on a agi selon les traditions. Il y a eu plusieurs offres de reddition. Notamment, très peu de temps avant l'assaut, le sultan a proposé à l'empereur de se rendre, de le laisser maître de la ville en échange de le laisser maître sous les ordres du sultan. Alors, si je puis dire, ces événements se déroulent à un moment quand même où c'est l'ultime assaut parce que du côté des Turcs, le temps un peu est écoulé. Il faut prendre la ville ou se retirer. Se retirer, c'est risquer évidemment des émeutes. C'est le risque précisément qu'avaient voulu éviter les vieux conseillers de Mourad.
Le Mermet. Oui, enfin, qui avaient été autrefois ceux de Mourad, son père.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est cette armée qui va, par plusieurs vagues, dans la nuit du 28 au 29 mai, s'attaquer aux défenses byzantines, qui jouent encore leur rôle. Et si vous voulez, ce n'est pas le canon qui a ouvert des brèches qui va être l'élément décisif. C'est la blessure du principal défenseur de la muraille terrestre, qui est le Génois, qui est blessé d'un coup de couleuvrine. C'est accidentellement aussi une petite porte qui est laissée sans défenseur. Et c'est comme ça que déferlent effectivement les troupes turques, les janissaires. Il y avait aussi des auxiliaires qui ont gardé un nom célèbre, c'est les Bashi Bazouk. Et l'empereur a décidé effectivement de combattre jusqu'au bout et s'est fait tuer. Sa tête aurait été apportée au sultan pour toucher une récompense par un soldat.
Autour du 20 mai, les chrétiens grecs et latins priaient ensemble à Sainte-Sophie, la cathédrale, qui était devenue unioniste les tout derniers mois. Mais à la
Depuis décembre 1452.
Mais à la date du 1er juin, après la défaite, cette cathédrale a été débarrassée à la hâte de ses symboles chrétiens pour recevoir le sultan vainqueur. Alors, deux points de vue contestés, la télé française, 81, puis le film turc, Fethi, 1453.
Pendant trois jours, la cité de l'empereur Constantin a été pillée et livrée au massacre. Des milliers de chrétiens, réfugiés à Sainte-Sophie, égorgés.
Vive notre sultan!
Relevez-vous, messieurs. Votre empereur est mort, enterrez-le selon les coutumes de votre religion. Dorénavant, nous partageons la même vie. Nous partageons les mêmes terres. Et aussi le même destin. Vous êtes libres d'exercer votre foi à votre convenance.
Alors une fois le pillage réglementaire, qui n'a peut-être pas duré 3 jours, le sultan intervient pour montrer qu'il est plein de modération. Bon, il va
pouvoir
peut-être garder quelques responsables de l'entourage de l'empereur, mais cette envie ne va pas lui rester très longtemps. Il pense à l'avenir, il faut qu'il reconstruise la ville pour en faire sa capitale.
À terme, oui. Hein.
Mais arrêtons-nous à cette phrase à laquelle le film turc, évidemment, fait un sort. Vous êtes libre d'exercer votre religion. C'est vrai qu'il va y avoir, même si Sainte-Sophie est transformée en mosquée, une cathédrale et un patriarche orthodoxe qui vont demeurer à Constantinople.
Oui, bien sûr, puisque c'est la loi musulmane s'applique. C'est-à-dire qu'une fois la ville prise, les chrétiens sont devenus les sujets. Ils sont soumis donc à la zimma et ils sont donc protégés. Et le sultan, sachant tout de même qu'il gouverne une vaste population grecque, d'autant qu'il va absorber les derniers restes du monde impérial byzantin.
Très byzant, le 1461.
Très byzant la Morée. Donc, le patriarche choisit un anti-unioniste qui est Scholarios, qui avait pourtant signé à Florence, mais qui a changé d'avis. Et il le choisit parce qu'il est précisément hostile aux Latins. Et la crainte de Mehmet, c'est, compte tenu de l'écho de la prise de Constantinople, une nouvelle croisade, comme celle de Varna ou de Nicopolis plus tôt, s'organise.
L'ennemi, c'est le pape, et au fond, on peut concevoir une orthodoxie à dimension territoriale, bien dessinée.
C'est plutôt ethnique, c'est-à-dire que c'est le peuple grec, c'est les Milètes, c'est-à-dire qu'il y a un statut, et le patriarche, spontanément, est un peu considéré comme le responsable devant le sultan.
Fin du grand rêve écuménique, et les orthodoxies se cristallisent autour de la Serbie, qui rêve d'un patriarche, autour de la Russie, qui rêve d'un patriarche, etc. L'espace grec va entrer dans la clandestinité jusqu'au XIXe siècle. L'espace byzantin, vous, monsieur le professeur d'histoire de Byzance à Paris-Sorbonne, il est reconstitué là au fond?
Absolument.
Sous l'égide du sultan.
Il manquait Constantinople pour retrouver, l'empire médiéval fondé sur les Balkans et sur l'Asie mineure. Il faut savoir alors que les Ottomans se sont appuyés d'abord sur la partie européenne. C'est une puissance européenne, la puissance ottomane, avant tout. Et ils vont l'élargir, puisqu'ils vont reprendre, là, cette fois-ci, quasiment l'empire de Justinien, moins l'Italie, mais plus la Mésopotamie.
1453, la chute de Constantinople. Le nom sera encore utilisé dans les usages diplomatiques jusqu'en
1923, c'est Constantinia.
Donc on peut utiliser toujours ce nom et aussi celui de Byzance. Je rappelle votre histoire de Byzance lumineuse dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Basile Beaucaire, Camille Poux, Jalaguier, Frédéric Martin. À la réalisation, Stéphane Ronxin, c'était l'équipe de la Marche de l'Histoire.